au Capi Action.
Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo.
Mon nom est Yvonne, je suis de Dakar, le groupe Melo Bofuese.
À la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale.
La législation congolaise réglemente la manière dont...
Pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture.
Pendant tout ce temps, ils coupaient les salaires des infirmiers à la source.
Vous avez des preuves de ce que vous avancez, Madame Brigitte? S'il vous plaît, Madame Brigitte. S'il vous plaît, Madame Brigitte. Est-ce qu'on peut s'écouter?
Au Capi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Et oui, nous poursuivons dans Capi Action avec plusieurs sujets qui vous touchent et qui vous intéressent. Et maintenant, nous abordons un sujet qui concerne particulièrement les femmes. Nous avons deux femmes dans ce studio, prêtes à parler aux femmes, hein, mais surtout femmes enceintes. Hein. Et oui, femmes enceintes, aujourd'hui, on s'adresse à vous directement avec Nathalie Mouteba. Nathalie, bonjour.
Bonjour à vous, Nikon Ngaka.
Nous parlons aujourd'hui des femmes enceintes et nous allons entrer en détail pour parler de l'hygiène de la femme enceinte, hein, avec vous. Hein. Alors, que dire de l'hygiène de la femme enceinte? Tout d'abord, est-ce, lorsqu'une femme est enceinte, est-ce que cette femme-là, on peut dire qu'elle est malade?
Non, Nikon. Vous plaisantez. Une grossesse, vous l'avez bien souligné, n'est pas du tout une maladie, mais plutôt c'est un état. Mais il arrive que c'est plutôt un état, Nikon Gaga.
Il peut arriver que les femmes soient malades parce qu'elles sont enceintes, ça on le sait.
Tout à fait, Nicole. Il y a des grossesses qui compliquent énormément, mais c'est des cas plutôt rares. Et il faut ajouter que le premier trimestre généralement, pour toutes les femmes qui commencent une grossesse, n'est pas du tout facile à vivre. Hein. Nausées, fatigue, malaise, etc., etc. Nécessairement au premier trimestre. Ensuite, tout va plutôt bien. D'ailleurs, le docteur Kezadi, qui est gynécologue et que nous avons contacté, nous le confirme.
Non, l'état de grossesse n'est pas une maladie. Mm-hmm. Sauf que il y a des modifications physiologiques qui font que la personne puisse se sentir un peu malade, mais en réalité, elle ne l'est pas.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup des femmes qui sont enceintes, qui attendent famille, elles ont plutôt l'air malades, elles sont toujours fatiguées, elles sont toujours un tout petit peu négligées, et quand vous leur demandez « Ah, je n'arrive pas », qu'est-ce qui explique cela?
Bon, disons que ce phénomène est beaucoup plus perceptible au début de la grossesse, hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que cela est dû tout simplement au fait qu'il y a changement brusque avec les modifications hormonales qu'apporte la grossesse. Mm-hmm. Il y a une certaine lassitude, parfois des nausées, des vomissements. Bon, enfin, c'est pas une maladie comme telle, mais c'est un désagrément, tout simplement dû à l'état de la grossesse. Et cela est dû tout simplement au fait que psychologiquement, la personne se sent, disons, dans une situation qu'elle n'avait pas connue avant. Mm-hmm. Et en plus, il y a les hormones qui agissent.
Voilà, ce n'est pas une maladie. Hein. Quand on a des nausées, vous n'êtes pas malade, Nathalie. C'est juste des malaises et ça va passer. Hein. N'est-ce pas, mesdames? J'espère que vous serez vraiment nombreux à réagir au 081 070 2050. Mais j'aimerais aussi entendre la voix des hommes. Hein. Réagissez, messieurs, parce que mine de rien, je crois que ça se passe ensemble. Hein. Cet état des choses. Alors, est-ce que vous avez rencontré des femmes, Nathalie, qui connaissent des problèmes d'hygiène? Parce que nous savons que beaucoup nous disent que les femmes enceintes, mine de rien, elles ne sont pas très propres. Hein. Vous avez rencontré ces femmes-là?
Oui, j'en ai rencontré une, Nicole. Elle a refusé de s'exprimer, mais dans l'entretien que j'ai eu avec elle, elle a déclaré qu'elle est mère de 7 enfants. Elle n'a jamais eu des problèmes, excepté avec son tout dernier. En effet, nous a-t-elle déclaré, elle se levait tard dans la journée, incapable d'accomplir une seule tâche ménagère. Elle restait toute la journée avec un gros boubou sale ou bien défraîchi. Prendre un bain, c'était un véritable calvaire pour elle. L'eau agissait sur elle comme un couteau. Bien souvent, d'ailleurs, c'est son mari qui venait lui donner son bain à son retour de travail.
Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes.
Non, bien sûr, il y a celles qui vivent très bien leur grossesse. Nous avons parlé avec deux d'entre elles. La première est mère de 4 enfants. On l'écoute.
Une femme enceinte sur le plan hygiénique, qu'est-ce que je veux dire? D'abord, il faut bien se soigner parce qu'il ne faut pas laisser entrer des microbes, parce qu'une femme enceinte, déjà, elle devient très vulnérable. Et il faut qu'elle protège l'enfant contre les microbes. Donc, il faut être propre, bien manger. D'abord, elle doit s'habiller, elle doit mettre les habits dans lesquels elle se sent à l'aise. pas trop serrés. Si vous estimez que les habits trop serrés, dans les habits trop serrés, vous n'êtes pas à l'aise, ne le mettez pas. Il faut que vous soyez à l'aise, parce que d'abord, une femme enceinte transpire beaucoup. Il ne faut pas qu'elle mette le tissu qui lui colle ou elle a encore chaud. Vraiment, il faut qu'elle soit à l'aise pour qu'elle ne stresse pas. Parce que quand elle n'est pas à l'aise, elle stresse et ce n'est pas bon pour le bébé. Et puis, elle doit se laver au moins 2 fois par jour, si pas 3 fois, nous sommes dans un pays chaud. Comme elle se sent à l'aise, si à 2 fois, elle se sent à l'aise, oui. 3 fois, elle se sent à l'aise, oui. Mais trop pas exagérer. Il ne faut pas non plus trop exagérer parce que moi, je sais quand une femme est enceinte, les hormones, il y a aussi les hormones en action. Alors, il ne faut pas trop compliquer le corps. Il faut laisser faire la chose, surtout que vous avez un bébé en gestation. Il ne faut pas essayer d'appliquer des choses trop compliquées au risque.
Voilà, donc là, c'était une femme mère de 4 enfants hein, qui a parlé à l'aide de l'expérience, Nathalie Mouteba. Mm-hmm. Mais bon, je crois que vous avez pu aussi rencontrer une primipare. Hein. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, la primipare?
Oui, la primipare, c'est-à-dire celle qui est à sa première grossesse. Hein. Mm-hmm. Je vous laisse plutôt écouter ce qu'elle nous a dit.
Effectivement, je suis enceinte, mais je vis normalement. Sur le plan hygiénique, j'ai fait un effort d'être propre comme je l'ai toujours fait. Mm-hmm. Et il faut toujours se laver, surtout le partie hygiénique, de façon d'éviter aussi les microbes. Parce que vous savez, bien que l'enfant est protégé, mais on doit quand même éviter certains microbes dans la voie vaginale. Mm-hmm. Donc dans cet état, il faut pas même se fatiguer. Donc il faut être apte à faire tout.
Pour vraiment être bien dans votre peau, qu'est-ce que vous mettez généralement? Qu'est-ce que vous portez comme vêtements?
Comme vêtements, moi personnellement, je préfère être en boubou, dans des robes qui me laissent passer de l'air, quoi. Mm-hmm. Je n'aime pas être encombrée, mm-hmm. parce que au fur et à mesure que tu portes aussi des histoires serrantes, mais serrantes plutôt, tu vois, donc ce n'est pas aussi bien pour ta respiration, peut-être aussi la respiration de l'enfant.
Voilà, donc il faut porter des vêtements amples hein, pour laisser passer de l'air, mm-hmm. Nathalie. Mm-hmm. Je crois que vous êtes du même avis. Hein.
Oui, je suis du même avis, Nicole. Le docteur Kazadi, que nous avons contacté, l'est également.
D'abord, pour ne pas avoir l'air négligé, c'est une question de volonté. Hein. C'est là, il ne faut pas qu'on court derrière avec une psychose pour lui dire « Non, écoute, tiens-toi comme ceci ou comme cela. » Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile et cela dépend aussi du niveau d'instruction de tout un chacun. Hein. Pour ne pas paraître sale d'abord, les soins corporels, elles doivent commencer d'abord par l'hygiène corporelle habituelle, hein, comme tout le monde. On se lave le matin, hein, on se lève, on se lave, on fait ses soins buccaux et on s'habille de manière correcte. Et spécifiquement chez la femme enceinte, il faut éviter de s'habiller chaudement quand il fait très chaud.
Voilà, tout le monde revient là-dessus. Hein. Il ne faut pas s'habiller chaudement quand il fait très chaud. Il faut laisser passer de l'air. Alors finalement, Nathalie, il est possible pour une femme d'avoir une vie normale, même si elle est enceinte.
Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'une femme enceinte doit faire pour son hygiène. Hein. Sur le plan environnement, par exemple, la femme doit éviter d'aller en boîte de nuit hein, ou dans des lieux où il y a trop de foule, par exemple dans les marchés. Elle peut être sujette à des malaises. Il y a aussi un autre point à toucher quand on parle de l'hygiène, ce sont les rapports sexuels, Nikon Gaka. Alors, je vous invite d'abord à écouter notre primipare qui a donné son point de vue et ensuite on écoutera le médecin qui dit si oui ou non les rapports sexuels sont autorisés pour
c'est une autorisé, femme. C'est autorisé.
C'est autorisé, c'est sûr, mais on va l'écouter.
Suivant.
Non, ça se passe normalement comme d'habitude. Quand j'ai l'envie, on le fait.
Mm-hmm. Ouais. Pas trop
ou non, bien, pas trop.
C'est un rythme normal non, ou bien c'est diminué.
Bon, en fait, ce n'est pas, pas trop de mouvements parce que tu sais, avec cet état, il faut quand même, vous pouvez le faire, mais atténuer des mouvements quoi. Mm-hmm. Mais sinon il faut le faire, moi je ne trouve pas l'inconvénient quoi. Mm-hmm. Donc il faut le faire, d'ailleurs ça
c'est bon
ça peut aussi aider l'enfant. Ça aide l'enfant si
ok.
Et, en tout cas moi je ne trouve
donc
pas
c'est un conseil que vous donnez aux femmes quoi.
Si c'était un conseil que je donne aux femmes parce qu'il y a certaines femmes qui se disent non, moi comme je suis enceinte si j'ai déjà 5 à 6 mois, non, on ne peut pas encore faire tout ça. Non, parce qu'il y a aussi souvent quand on va à l'hôpital, souvent quand la femme est déjà à terme, elle arrive à l'hôpital pour accoucher et que ce n'est pas prêt. Des fois, tu vois le médecin, lui recommande rentre d'abord à la maison. Mais tu vas rentrer à la maison pour faire quoi? C'est ça le travail. Donc, tu vas faire les rapports sexuels avec ton mari, c'est ce qui va même activer que l'enfant puisse sortir rapidement. Donc, c'est ce que d'autres femmes ignorent.
Est-ce que c'est vrai tout ça, mesdames? J'espère que vous allez réagir, hein, parce que entre nous, je crois que vous êtes bien placées pour nous dire si réellement, Nathalie, les rapports sexuels ne sont pas prohibés lorsqu'on est à 8 mois de grossesse. C'est pas prohibé
ben,
du
écoutez,
tout.
Écoutez, sauf sur prescription de médecin peut-être, mais je préfère laisser les spécialistes s'expliquer.
Les rapports sexuels ne sont pas du tout interdits, au contraire. Nous les autorisons et tout simplement, on prend la précaution de les espacer un tout petit peu. Hein. Mm-hmm. On les interdit qu'en cas de menace de fausse couche ou de menace d'accouchement prématuré.
Mais supposons qu'elle a un monsieur plutôt gourmand. Qu'est-ce qui va arriver?
Plutôt gourmand, mais il faut les discipliner. Hein. Bon, vous savez, ces choses-là, ben, si le partenaire n'est pas disposé, et on ne va pas aller jusqu'à la violer quand même. Hein.
Voilà, ça c'est l'avis du médecin, Nathalie. Donc, quand on a un partenaire plutôt gourmand, comme l'a dit le médecin, il faut savoir le conseiller. Hein,
et puis bon, vous savez, il y a des grossesses qui sont plutôt compliquées. Mm. Et donc, cela requiert une petite discipline de la part de monsieur et de madame. Donc, il faut parfois un petit sacrifice.
Voilà. Allez, j'espère que vous allez réagir au 081 070 2050 pour nous envoyer vos SMS. Dans un instant, nous allons recevoir notre invité, c'est le docteur Yolande Kapend. Médecin à la clinique Ngalima, c'est une dame, hein. Elle est bien placée pour nous dire concrètement qu'est-ce qui est bon pour une femme enceinte, qu'est-ce qui n'est pas bon pour une femme enceinte. Merci hein, Nathalie Moutébaï, à la prochaine.
Merci à vous Nicole Ngakar.
Okapi, c'est vous.
Voilà, nous sommes là avec vous, avec notre invitée qui est là, Dr Yolande Kapend, médecin à la clinique Ngalima. Elle est bien placée hein, pour nous parler des femmes enceintes parce que tous les jours, elle est en contact avec elles, elle les connaît mieux que nous, elle connaît leurs problèmes, leurs caprices. Et je crois que mesdames, si vous avez des questions, et même vous, messieurs, vous qui me suivez puisque vous êtes tous les jours ensemble avec des dames et que peut-être que vous avez eu dernièrement assisté votre femme qui était enceinte, les difficultés que vous avez eu à rencontrer, c'est l'occasion de poser vos questions au 081 070 2050 à travers des SMS. En attendant, nous recevons le docteur Kapend. Docteur Yolande Kapend, bonjour.
Bonjour Nicole.
Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs. Vous avez suivi tout à l'heure le point qu'on a eu à faire avec Nathalie Moutéba. Beaucoup de femmes enceintes sont négligentes. Hein, vous savez, beaucoup s'imaginent qu'elles sont malades alors que le médecin nous a dit que c'était juste des caprices qui allaient passer. Mais que dire de l'hygiène de la femme enceinte? Vous les rencontrez tous les jours. Ce n'est pas facile, hein?
Oui, tout à fait. Nous avons la chance quand même de rencontrer une caste de femmes qui sont pour la plupart de dames assez respectables. Donc, la plupart viennent avec certaines conditions d'hygiène qu'on apprécie plus ou moins. Mais comme on le sait, c'est que d'autres ne savent pas qu'en ce moment, elles doivent être beaucoup plus hygiéniques que d'habitude. C'est-à-dire, l'hygiène ne comprend pas seulement leur hygiène corporelle. Et il y a aussi l'hygiène environnementale, mais aussi même l'hygiène dans ce qu'elles doivent manger, bien sûr.
Parlons de l'hygiène corporelle, qu'est-ce qu'elles doivent faire?
Oui, dans l'hygiène corporelle, c'est tout à fait vaste. C'est-à-dire, c'est une femme qui doit, au matin, se réveiller, pouvoir se brosser convenablement ses dents, les brosser régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par jour au possible, tout le temps après avoir mangé, et le matin, dès qu'elle se réveille. Et se laver, ne fût-ce que 3 fois par jour. On a vu des femmes qui vous diront, depuis que je suis enceinte, je ne supporte pas mon savon, je ne supporte pas ma lotion, et raison de plus pour vraiment ne pas se retrouver dans les bains. C'est vraiment effectivement des caprices parce qu'il faut se savoir à ce moment, vous avez une certaine libération d'hormones beaucoup plus importante, ce qui fait vous transpirez un peu plus que d'habitude. Et donc, il faut pouvoir vous laver régulièrement et vous changer aussi régulièrement.
Mais la fatigue, beaucoup sont fatigués,
voilà.
C'est ça le problème.
Au début, bien sûr, il y a la fatigue qui commence. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui signale aussi, ce qui signe le début de la grossesse, c'est la fatigue et la somnolence. Ce qui fait que la femme sera beaucoup plus paresseuse. Mais il faut aller outre cela. Donc, il faut une certaine discipline, c'est dire que pour ne pas gêner le monde à côté, parce que d'autres diront, je ne supporte plus l'odeur de mon mari, je ne supporte plus l'odeur de mes affaires. C'est tout simplement que ces objets deviennent certainement sales. Donc, vous ne les supportez plus.
Mais pas toujours. Il y en a qui nous ont dit, vous savez, docteur Yolande Kapend, nous ont dit qu'elles aimaient bien sentir l'odeur des toilettes. Il y en a qui ont dit ça carrément.
Oui, des sous-vêtements sales, il y en a qui sont capables de le faire. Mais dites-vous quand même que c'est une caprice, et puis que c'est un caprice plutôt, et que c'est impossible de pouvoir apprécier ce qui est mal quand quand même. Mm. Hein, c'est-à-dire se faire une raison et dire que voilà, je pense à cela, mais c'est que dans ma tête, il y a quelque chose qui n'est pas assez normal. Mm. Donc, il faut vraiment passer outre cela et pouvoir savoir qu'il faut que je me lave 3 fois par jour, il faut que je me change régulièrement, que mes vêtements soient toujours propres, mes sous-vêtements malgré également. Malgré la fatigue, c'est donner un petit effort. Trois fois, ça, c'est pas aussi difficile. Quoi.
Sinon, parce qu'il y a quand même des conséquences qu'on ne respecte pas cela.
Bah, sinon, vous êtes sujet à plusieurs infections, surtout cutanées, et aussi des infections génitales. Ce sont les plus fréquentes qui vont survenir, parce que déjà, de par le fait que vous êtes enceinte, les infections génitales deviennent le plus facile à avoir. Donc, alors, imaginez que vous ne faites pas des soins tout à fait appropriés. Donc, vous voyez que la suite, c'est
il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'infection tout à fait,
il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et assez régulièrement. Non seulement parce qu'elles ne se lavent pas assez, mais déjà, dès le départ, quand vous ne vous lavez pas assez, donc vous réduisez d'abord ce cas-là. Mm. Mais déjà, de par ces hormones que vous sécrétez, de par cet utérus qui augmente de volume au fur et à mesure, donc vous devenez sujet à pouvoir...
Et quand on a plusieurs infections, docteur, finalement, est-ce que ça peut avoir des conséquences à la longue sur l'enfant?
Bien sûr. Les conséquences sont souvent néfastes, c'est-à-dire c'est un accouchement prématuré parce que vous fragilisez les membranes de l'enfant, donc le sac gestationnel de l'enfant. Alors, à la longue, il y a une rupture de cette membrane et automatiquement un accouchement prématuré qui survient ou alors une fausse couche.
Mmh. Mmh. Vous avez aussi parlé de l'hygiène environnementale. Mmh. Ça implique quoi exactement?
Alors, ça implique que dans le lieu où vous habitez, il faut savoir pouvoir. Bon, c'est vrai que vous êtes fatigué, mais certainement que vous avez un compagnon ou des personnes avec qui vous vivez. Donc, il faut que vous soyez dans un milieu où les pièces sont très aérées. Il faut éviter au maximum des pièces humides. Ça, il faut vraiment l'éviter. Toujours le matin, bien aérer votre pièce, pouvoir avoir une pièce qui est toujours au regard du lever du soleil, c'est-à-dire vers l'est, parce que les pièces situées souvent à l'ouest sont sujets à des humidités, surtout à ce temps pluvieux plutôt. Mmh. Donc, il faut éviter ces pièces-là. Il faut...
Et quand on a un problème d'humidité, ça peut avoir des conséquences?
Mais bien sûr, parce que là, c'est source certainement de beaucoup d'allergènes qu'on voit. Vous vous mettez à éternuer ou vous vous mettez à faire de syndrome grippaux comme ça à répétition parce que le milieu d'abord n'est pas
malsain,
oui. Mm. Et même aussi, pendant que vous faites cela, vous pensez déjà à pouvoir bien aménager le coin où vous mettrez votre bébé. Mm. Donc il faut que ça soit déjà une pièce qui est suffisamment aérée, où l'air passe, repasse, et aussi où le soleil passe pour essayer un peu de rendre le milieu encore plus sain.
Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous vous adressez à des personnes, à des habitants qui vivent peut-être dans des coins, bon, il faut être réaliste, pas toujours facile, pas accessible. Mmh. Peut-être qu'en ce moment, à Kisangani, Mahagi, Mbandaka ou ailleurs, bon,
c'est pas toujours facile, mais alors, si vous avez une pièce assez contiguë, donc essayez de limiter au maximum de l'encombrer, voilà. Mmh. Donc elle doit quand même être plus ou moins aérée. Une petite pièce, vous avez juste votre lit, peut-être une petite chaise à côté, et votre valise ou votre petite garde-robe, mais vraiment que les choses soient vraiment en ordre, de sorte qu'il y ait de l'espace, et que, à travers cet espace, parce qu'il y ait ne fût-ce qu'un minimum d'air ambiant tout à fait sain.
Mmh. Voilà. Alors, quels sont les problèmes que rencontrent souvent les femmes enceintes? Vous avez parlé tout à l'heure des problèmes d'infection. Mmh. Hormis les problèmes d'infection, est-ce qu'il y a encore d'autres problèmes qu'on peut rencontrer du fait qu'on n'a pas eu à respecter comme il se doit l'hygiène corporelle?
Alors, pour l'hygiène corporelle, c'est souvent ça. Ce sont les infections cutanées, je vous en ai parlé, des gens de mycose qu'on retrouve souvent et principalement les infections génitales. Alors, pour les autres, ce n'est pas tellement lié à l'hygiène, peut-être l'hygiène alimentaire. Une femme qui devient gloutonne, elle peut peut-être à la longue développer pas un diabète gestationnel parce qu'une alimentation vraiment mal équilibrée. Une femme, toujours de par sa mauvaise alimentation, peut être sujet à des constipations beaucoup plus fréquentes parce qu'il faut savoir que physiologiquement, la femme est disposée à faire beaucoup plus de constipations que l'homme. Alors, une femme enceinte le devient encore beaucoup plus et davantage. Mmh. Alors, ça, c'est plus lié à l'alimentation parce que les restes tels que les hypertensions ou d'autres affections comme la syphilis ou la toxoplasmose, ça sont des affections qui n'ont rien à voir avec l'hygiène. Mmh. Ce sont des infections qu'on dépiste tout à fait au début. Quand la dame vient au cours de ses consultations, on essaie de faire tous ces dépistages et on sait savoir quelles sont les affections qu'elle peut avoir.
Il y a beaucoup de femmes qui vous suivent en ce moment, qui nous disent « Moi, s'il faut alia mingi pour mon akulama lam. » Vous dites que les femmes sont gloutonnes, en tout cas beaucoup sont gloutonnes, hein. Pas toutes, bien sûr, mais en tout cas une bonne partie. Alors, quand on dit que les femmes sont gloutonnes et qu'en même temps, les femmes disent « Moi, s'il faut aller à Pomona Kola Malamu. Qu'est-ce que vous diriez aux dames qui vous suivent en Lingala, s'il vous plaît?
En Lingala, donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous en avez mis qu'il faut le colia et un dingue moko avec c'est parce que le bi colia mingi ezali colia malamouté parce que coco lia mingi otie ngomba allo sona ma dessous et puis le bi bon allié bien au melimaï non c'est à dire que il faut lire de manière fractionnée au coco lia hein au lié moi quantité moko boyé une fois d'ailleurs une femme enceinte colia na mingi ezali colia de manière séquencée. Donc, allier au moins 5 fois, mais vraiment fractionné. Allier moi, mouké na tongo, allier sous heure moko na ba midi wana boué, un peu vers 15h, et puis vers le 18-19h, et un peu le soir, et c'est fini. Mais allier en gros vraiment fractionné, biloko mouké, mouké pe biloko a bien. Biloko moko est équilibré, ou ils allient à la fois, na ba protéines, na ba
lipides,
comme des légumes. Les légumes, d'ailleurs, ce sont les choses que l'on préconise le plus souvent. Les poissons, le lait, les œufs, de temps en temps, et surtout toujours en faisant attention. Les chenilles, oui. En faisant attention que cette femme n'est pas déjà hyper protidique. Donc, elle a déjà un excès à graisse, à protéines. Donc, il faut vraiment faire très attention à cela.
Ok. Mm. Alors, vous avez beaucoup de réactions des auditeurs qui vous suivent partout, docteur Yolande Kapend, notamment Marcela, qui vous pose la question suivante. Comment une mère grosse peut-elle faire pour retrouver la même grandeur de ses seins, puisqu'elle n'a pas, elle n'a allaité que du côté droit tous ses deux premiers enfants? Est-ce que vous pourriez répondre à cet auditeur?
Bon, d'abord, c'est impossible qu'on allaite que d'un seul côté. Hein. Enfin, selon lui, dit, on a allaité que d'un côté, c'est ça? Non, c'est impossible.
Les deux premiers enfants.
Non, non. Il est important de savoir qu'une mère doit pouvoir allaiter ses enfants des deux seins. C'est-à-dire, quand tu les mets au sein gauche, quelques minutes après, donc 15 minutes, il faut varier, il faut mettre de l'autre sein, parce qu'effectivement, vous allez créer une...
Peut-être que Marcela ne sait pas que sa femme a eu à varier. Hein. Il ne la voit allaiter que
du côté parce
gauche.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'anatomiquement, même quand vous mirez, les femmes, vous verrez que vos seins ne sont pas tout à fait identiques. Il y a toujours un sein qui est beaucoup plus pendu que l'autre, ou un autre qui est beaucoup plus petit que l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Rares sont des femmes qui ont des seins identiques. Alors donc, peut-être que sa femme avait déjà cette anomalie que lui n'a pas remarqué, que peut-être qu'il s'est fait remarquer beaucoup plus après ses accouchements.
Autre réaction d'un auditeur anonyme, depuis Béni, qui dit dans le Nord Kivu, quand vous avez une femme qui ne se lave pas pendant la grossesse et qui pue, que dois-je faire?
Alors, c'est quand même méchant de dire qu'il pue parce que bon.
Ce sont ces termes.
Qu'est-ce que vous pouvez faire? L'aider peut-être si elle ne sait pas se mettre son eau dans son seau pour aller se laver. L'aider à le faire parce que il faut noter qu'elle doit pouvoir aller dans des toilettes aussi assez hygiéniques, assez propres. Bon, c'est difficile. On vient de parler des gens qui sont peut-être dans des coins reculés. On va
vous
pas très loin,
malheureusement. Vous avez un kikoso que vous partagez avec plusieurs personnes.
Si on peut trouver, on vend des grains de javel, des petites graines de javel, j'ai déjà vu au marché. Vous devez en avoir, pouvoir en avoir, vous faire votre petit eau javelisée et vous en versez de temps en temps dans vos installations ou dans votre seau et vous vous lavez. En tout cas, si votre femme pue, c'est que quelque part, vous aussi, vous l'avez aidée.
Et ça n'a pas de conséquence sur l'enfant quand vous versez ça dans votre seau?
Non, ça n'a pas de conséquence du tout parce que c'est tout à fait usage externe, donc ça n'a rien à voir avec le
bébé. Il faut éviter vraiment les infections.
Il faut éviter au maximum, donc faire tant soit peu tout ce qui est à votre possibilité. Pour pouvoir éviter. Oui.
Ok, alors on évolue sur les questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pouvez-vous nous dire quel habillement est indiqué pour une femme grosse, car beaucoup semblent l'ignorer?
Alors ça, c'est très vrai. Actuellement, on remarque que les filles grosses se permettent de porter des body ou des pantalons taille basse, comme on dit.
Alors,
des jeans collants. Alors, faut dire qu'il y a des tenues, il y a des jeans et des body qui sont appropriés pour les femmes enceintes. Ceux qui ont l'occasion de voir dans des catalogues, ils verront que la mode, bon, ça c'est vraiment occidental, on leur propose celles qui veulent vraiment des jeans ou des body. Mais l'idéal, c'est de s'habiller beaucoup plus amplement. Alors, on s'habille amplement, c'est pour soi-même. Et on s'habille aussi amplement, c'est pour laisser assez d'espace.
Mais il y en a beaucoup qui disent que quand une femme est enceinte, elle est beaucoup plus sexy, alors elle doit s'habiller avec des vêtements qui sont moulants.
Non, d'abord, vous allez vous étouffer à la longue. Essayez, enfin, une fois enceinte, essayez de vous habiller hyper sexy. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par sexy. Il faut seulement que ça soit bien collant, bien moulant pour qu'on dise sexy. Bon, je ne sais pas. Si vous vous habillez comme cela, vous allez vous étouffer. Parce qu'elles sont sujettes aussi à beaucoup de...
Donc, on retient l'habillement ample.
L'habillement ample est idéal.
Alors, Célestin Dosengue, depuis Rutshuru, demande, quelles sont les denrées alimentaires qu'une femme enceinte doit éviter?
Alors, on évite le plus souvent tout ce qui est boisson gazeuse. Il faut vraiment l'éviter. Et des aliments très épicés. On essaie vraiment de les éviter au maximum.
Donc, des aliments où il y a beaucoup de piment.
Où il y a beaucoup de piment, il y a beaucoup de poivre, donc c'est toujours un peu une sorte de piment,
hein.
Déconseillé quand même. Mmh. Hein, préférer les aliments tout à fait naturels et moins modifiés génétiquement. Oui.
Ok, alors il y a beaucoup de questions des auditeurs en rapport avec les rapports sexuels. Mmh. Je vais lire rapidement toutes ces questions une fois. Jusqu'à quand il faut éviter les rapports sexuels? Ça, c'est la question que vous pose Espoir depuis Matadi. Mmh. Benjamin Franklin Konkou à Lubumbashi nous dit quand est-ce qu'une femme enceinte peut cesser de faire des rapports sexuels? Faut-il combien de jours pour reprendre à connaître sexuellement sa femme après accouchement? Ça, c'est Serge Zakwani qui vous pose la question depuis Kindu. On termine avec la question de Freddy depuis Kananga qui dit on dit que lors des rapports sexuels, le sperme nourrit l'enfant. Est-ce que c'est vrai, docteur? Donc, toutes ces questions
rapport. Je commence par la dernière question. C'est sexe, très faux. Le sperme ne peut en rien nourrir encore l'enfant. Mm. Il a fait son travail depuis la conception. D'ailleurs, ce n'était qu'un moyen de transport pour le spermatozoïde pour qu'il aille féconder. Donc, après cela, le sperme n'a rien à voir avec
mais alors,
le développement de l'enfant.
Mais alors, c'est d'autres qui disent que le sperme, ça peut aussi dégénérer sur la croissance de l'enfant. Est-ce que c'est
dégénérer dans
oui, avoir des conséquences négatives.
Non, ça n'a aucun rapport. D'abord, ça ne sera jamais en contact avec l'enfant en soi, qui est dans votre fœtus, quoi. Mm. Impossible.
Ok, alors, l'autre question.
Notre question, je vois jusqu'à quand faut-il éviter les rapports sexuel. Alors, l'idéal, c'est que dès que vous êtes enceinte, au début, avant de pouvoir vraiment s'assurer que cette grossesse pourra évoluer favorablement, nous conseillons quand même de pouvoir modérer dans les rapports. Nous interdisons pas les rapports, mais nous conseillons la modération.
La modération, c'est-à-dire à 8 mois, on arrête les rapports, par
alors,
exemple?
Non. Souvent, à la 28e, 29e et 30e semaine, jusque même à la 34e semaine, nous demandons carrément plus ou moins d'arrêter. Donc, c'est là entre le 7e et 8e mois. Nous demandons systématiquement d'arrêter. Puis, c'est le moment le plus désagréable où il y a aussi risque de faire des accouchements prématurés. Mmh. Mais dès que cette période est passée, nous conseillons même d'y aller avec beaucoup d'assiduité même.
À la fin alors?
À la fin, c'est-à-dire on entre déjà au 9e mois. Parce que effectivement, comme l'a dit une maman ici, ça va stimuler même cet accouchement.
Elle a raison.
Nous demandons même, excusez-moi, aux messieurs de pouvoir titiller les seins de leurs femmes parce que plus elles sont excitées, plus ça va déclencher un travail d'accouchement.
Ah bon? On apprend beaucoup de choses avec vous, hein, docteur Yolo Kampend. Alors on termine avec les deux autres réaction.
Alors,
jusqu'à quand et puis
jusqu'à quand on a répondu.
Vous avez répondu.
Oui.
Et comment une femme enceinte peut cesser de faire des rapports sexuels? Vous avez aussi répondu. Alors, c'est
quand est-ce que reprendre les rapports? Alors, il est conseillé quand même de reprendre les rapports sexuels 3 mois après l'accouchement. Ça, c'est ce qui est conseillé. Mais malheureusement, 3 mois après l'accouchement.
Ah, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Oui. Hein. Beaucoup nous disent aussi qu'après l'accouchement, comme la femme allaite, normalement, elle ne devrait pas avoir de rapports sexuels avec son mari. Est-ce que c'est vrai?
Non, parce que qu'est-ce qui contre-indiquerait qu'elle l'allaite? Parce que là, maintenant, on a une politique qui nous dit de faire allaiter les enfants le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Au moins, en tout cas, 6 mois ferme. Alors, donc, vous voulez dire que tous les 6 mois, cette femme ne pourra plus avoir des rapports après les 3 mois que nous conseillons? Non.
Parce que ça peut avoir des conséquences sur l'enfant?
Non, pas nécessairement. C'est les 3 mois, c'est un, pour pouvoir permettre à cette dame de pouvoir se reposer suffisamment, et aussi pour essayer de revoir ses couches, donc les retours de couches, ses règles. Ok, quand elle est fait plus tôt, elle a le risque de pouvoir concevoir entre temps. Et elle le risque de ne pas savoir qu'elle est enceinte et pendant qu'elle allait, elle continue et elle tombe enceinte. Mmh. Ça devient des grossesses rapprochées et par conséquent des grossesses à risque.
Donc il n'y a pas de danger.
Il n'y a pas de danger, mais il est recommandé de le faire 3 mois après l'accouchement.
Mais pourtant, nous savons qu'il y a des femmes qui ont leurs règles après une année, hein, d'après ce qu'on a appris.
Oh oui, oui, c'est bien pour
c'est
cela.
Dû à quoi, ça?
C'est bien. Bon, c'est chaque personne avec ses hormones, hein, sa façon de fonctionner. Il y en a qui ont des retours de couches beaucoup plus longtemps et d'autres qui reviennent même dans les 3 semaines après l'accouchement. Mmh. Donc ça, nous ne savons pas dire si c'est dû à quoi, mais on dit que c'est la courbe des hormones selon différentes femmes.
Mais ça n'aura pas de réel impact sur l'enfant, sur la croissance
sur l'enfant,
de l'enfant?
Non. Sur l'enfant, non. C'est-à-dire, tant que vous savez que vous avez un enfant et que vous devez le mettre dans les conditions qu'il faut pour sa bonne croissance, tout va bien. Alors, quitte à vous de pouvoir prendre soin aussi de vous par rapport au rapport, n'est pas le faire non plus régulièrement, parce que vous savez que vous venez de passer 9 mois avec une grossesse et que vos organes doivent retrouver leur place comme il se doit. Donc, nous disons 3 mois où il y a ce repos. Et après ces 3 mois, nous vous revoyons pour pouvoir discuter des moyens à utiliser pour éviter de faire une grossesse.
Alors, conclusion, hein, pour parler de l'hygiène de la femme enceinte. Conclusion, même si la femme est enceinte, ce n'est pas une raison pour devenir laide, pour devenir sale. Elle doit continuer à être belle pour le plaisir de son mari.
Tout à fait, tout à fait. Bien se laver le matin, se maquiller. Ben, si vous ne supportez plus votre lotion habituelle, ben, ne les mettez pas, trouvez autre chose. J'ai vu des dames qui ont dit qu'ils supportent plus les savons de Marseille, hein, qu'on appelle les coques ici, et qu'ils ne supportent plus le lait de beauté, pas de parfum et tout ça. Ben, ne les mettez pas. Mettez-vous peut-être une huile d'amande qui est souvent...
Docteur Yolande, ouais. On peut continuer comme ça jusqu'à la fin, mais bon, il est temps de s'arrêter. Ouais. Hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et j'espère que vous reviendrez. Hein.
J'espère bien.
Allez, à la prochaine.
Merci. Okapi Action. C'est malheureux, c'est un sabotage. Donc ça devient une tricherie, ça devient une corruption.
Des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations.
Ils ont des moyens très limités.
En tout cas, c'est appréciable.
Non, le problème ne réside pas à ce niveau-là, madame, mademoiselle.
Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Nicole Ngaka.
Nous poursuivons et maintenant nous allons à Mbujimayi pour rejoindre Billy Yvan pour parler de la vulgarisation du nouveau programme des cours. Billy Yvan est déjà en ligne, on va donc le recevoir directement. Billy Yvan, bonjour.
Et nos salutations à tous les auditeurs de Radio Caisse.
Alors comment se sont déroulées ces journées de réflexion et de vulgarisation du nouveau programme des cours puisque vous, vous avez eu à assister à cela?
Nicole, disons tout de suite qu'au total, ces cours sont concernés par cette réforme. Il s'agit de la pédagogie, morale, civique, histoire, chimie, la biologie, le français et mathématiques. Et une journée était réservée pour chacun de ces cours. Pour une meilleure vulgarisation, Nicole, de la réforme du ministère de l'EPSP, une journée était consacrée pour chaque discipline. Et le CANDIP, centre d'animation et de diffusion pédagogique, a fait venir des diverses écoles les enseignants titulaires des cours concernés et des différents acteurs de l'éducation en province. Ensuite, les programmes réformés ont été présentés aux participants pour qu'ils émettent leur avis et considérations.
Mmh. Alors, quels sont les motifs qui ont été, qui ont poussé en fait le ministère de l'EPSP à procéder à cette réforme?
Cette question, Nicole, nous l'avons posée au responsable de CANDIP ISP, qui se trouve être un des organisateurs de ces journées des réflexions et des vulgarisations. Monsieur Crispin Loukoussa nous en parle et nous donne aussi les raisons de l'organisation des journées des réflexions et des vulgarisations.
Suite à de nombreuses plaintes venues de la base sur le fait que le programme de l'enseignement primaire et secondaire était devenu vétuste et inadapté. C'est le cas, par exemple, du cours d'éducation politique qui, à l'époque, était centré sur le mouvoutisme. Les cours de géographie étaient surtout extravertis. Les cours de chimie, par exemple, étaient en retard sur l'évolution scientifique. Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous voulons analyser avec les enseignants les nouveaux programmes, leur montrer leurs points forts, leurs points faibles, les nouvelles innovations et montrer comment ils vont les utiliser efficacement.
Voilà, alors on a écouté tout à l'heure le point de vue de monsieur Crispin Loukoussa, mais quelles sont alors les modifications portées au programme des cours?
Les modifications concernent bien la quantité des matières des cours, les contenus, et cette réforme tient en compte le progrès scientifique, l'évolution de la politique du pays, du moins pour ce qui est du cours d'éducation civique. D'ailleurs, vous l'avez suivi avec M. Crispin Loukoussa. Les modifications sont à un certain moment spécifiques à un cours. Je vous propose de suivre quelques participants aux journées sur les modifications portées au programme des quelques cours.
Les programmes ont songé de recentrer la République démocratique du Congo dans l'enseignement national. Ça, c'est un grand acquis.
De la première en sixième, il y a le cours de biologie. Dans le temps, il y avait un trou. Il n'y avait pas de biologie en section technique, par exemple, en commercial, en industrie, par exemple, art plastique. Et puis, on a aussi augmenté le nombre d'heures.
Au niveau de classe terminale ou des classes du degré moyen, au niveau de l'expression écrite, on ajoute des éléments comme les résumés des textes, comme aussi de petits discours que l'enfant peut lui-même préparer. C'est déjà quelque chose.
Dans ce programme situé au degré terminal en matière de littérature, l'enfant aura une vue global de cette histoire, ce qui est très important.
Le nouveau programme d'éducation civique et morale a des notions sur la culture de la paix. Au niveau de la structure des matières, on a des compétences de base, on a des objectifs spécifiques au niveau de l'année, au niveau de la classe, au niveau de la promotion. Nous avons aussi des matières d'indication méthodologique, alors que dans l'ancien programme, on n'était pas ça.
Est-ce que, Billy, puisqu'il y a eu quelques changements, est-ce que vous avez pu avoir le point de vue des élèves à ce sujet?
Nicole, à ce propos, il faut reconnaître que les élèves ne connaissent pas effectivement qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a enlevé ou qu'est-ce qu'on a ajouté. Cependant, quelques-uns qui ont entendu parler de la réforme ont réagi.
La biologie, c'est bien, mais la chimie, c'est pas bien.
Pourquoi ?
Pour moi, la chimie ne me sert à rien.
En histoire, les choses que nos anciens élèves avaient vues, ce n'est pas ce que nous, nous voyons. On a perturbé, c'est ainsi que nous voulons qu'on puisse adopter toujours l'ancien programme.
Chimie en sixième, ce n'est pas tellement important parce que les pédagogues, nous sommes habitués avec les cours de psychopédagogie et didactique. On ne sera pas capable de résoudre tantôt la chimie, tantôt la mathématique et qu'on sort.
Donc il y a quand même, il faut penser à revoir encore les choses, je crois. Hein. Certainement qu'avec l'invité, on pourra reparler de cela. Mais vous qui avez eu à voir les professeurs des cours concernés par la réforme, qu'est-ce qu'ils pensent eux de cette modification, de toutes ces modifications, Billy Yvon?
Nicole, en grande partie, ils saluent la réforme, surtout que le ministère a tenu compte de leurs desiderata. Mais c'est une œuvre humaine, on peut toujours y apporter des critiques, comme nous pouvons l'entendre de la part des professeurs rencontrés.
Dans ce programme de biologie, on n'a pas effectivement fait de modules en forme d'heures. On a donné pratiquement les modules globalement. Ça veut dire qu'il y a une unité pédagogique qu'on donne et c'est à l'enseignant maintenant d'essayer de subdiviser son unité pédagogique de sa façon. On risque de ne plus avoir pratiquement les mêmes matières dans toutes les promotions.
Comme point faible que nous avons relevé de ce programme, le volume horaire de certaines options paraît exorbitant par rapport à l'horaire central de l'école. La chimie ne pourra peut-être pas trouver de place pour toutes les heures qui sont prévues sur ce programme-là.
Ce que l'on a ajouté au niveau de la littérature, franchement, c'est trop demandé à l'enfant. En moins de 2 ans, l'enfant doit avoir parcouru l'histoire de la littérature universelle. Je crois qu'il faudrait qu'il soit un homme extraordinaire.
Le programme n'est pas venu ici dans notre province par la grande porte. Les inspecteurs qui étaient partis à Kinshasa n'ont pas amené ce programme. C'est pourquoi dans d'autres écoles, il y a eu des difficultés d'apprendre cela avec insistance.
Voilà, donc le dernier intervenant, Billy, soulève un point capital sur la distribution des programmes et sa mise en application. Est-ce que vous avez appris, vous avez pu vous renseigner à ce sujet?
Oui, en fait, Nicole, beaucoup de professeurs ont soulevé divers problèmes en rapport avec le manque des manuels conformes à la réforme. Le moment de mise en vigueur de ces nouveaux programmes aussi. Lors des journées de réflexion et des vulgarisations organisées par le CONDIP-ISP, les discussions ont aussi pu se tourner autour de ces aspects. Certains professeurs et responsables de l'éducation en province s'inquiètent du fait que le gouvernement n'a pas mis ouvertement des moyens d'accompagnement conséquents pour une application cohérente de cette réforme. Et c'est à ce niveau, Nicole, que j'espère bien que votre invité pourrait éclairer la lanterne de nos auditeurs.
Certainement, puisque l'invité est déjà en ligne, Billy Yvon, on va donc le recevoir. Je vous remercie sincèrement d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup, Nicole.
Et voilà, notre invité est en ligne. Marcel Longi Mutashi, c'est son nom. Il est inspecteur principal provincial de l'EPSP Kasaï Oriental. Il est là pour nous dire concrètement ce qui sera fait pour bien vulgariser ce nouveau programme des cours. Marcel Longi, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous avez suivi tout à l'heure le point qu'on a eu à faire avec Billy Yvon à ce sujet. Il y a quand même quelques inquiétudes. Les élèves ne comprennent pas très bien, les professeurs non plus. Alors je crois que vous, vous êtes bien placé pour nous dire en quoi consiste exactement ce nouveau programme des cours.
Oui, je crois que l'essentiel a été dit par les intervenants qui ont pris la parole avant moi. Et disons qu'il y a eu une certaine rénovation des programmes en fonction des besoins de la société, parce que vous savez que notre enseignement a des objectifs. Alors, ces objectifs, pour être atteints, il faut que les programmes soient des moyens adéquats pour atteindre les objectifs. Mmh. On a constaté que la plupart des programmes étaient dépassés, vétustes.
Oui, mais qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau?
J'ai eu d'ailleurs le privilège d'assister, de participer à un atelier sur le renforcement des capacités du ministère de l'EPSP.
Marcel Longi, s'il vous plaît, c'est bien de préciser encore à nos auditeurs, parce que vous savez, il y en a beaucoup qui s'interrogent. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce nouveau programme?
Bon, disons qu'au total, il y a 8 programmes. En éducation civique, par exemple, et morale, comme un des intervenants l'a dit précédemment, les notions d'éducation à la paix, des droits humains et humanitaires, des codes de la route, de genre et équité ont été introduites. Au niveau de l'histoire, l'histoire est désormais orientée vers le passé de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Mm. Au niveau de la géographie, la géographie est maintenant à prédominance générale, mais ponctuée des notions de base sur la géographie physique, humaine et économique de la République démocratique du Congo. Au niveau de la biologie, disons que le programme, comme on l'a dit, commence par la troisième année.
Oui.
Et en chimie, bon, les contenus ont été réadaptés et orientés vers l'exercice d'un métier au lieu de se limiter seulement aux notions générales.
Oui, mais...
En mathématiques...
Oui, oui. Allez-y, précisez-nous, en mathématiques, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau?
En mathématiques, on a essayé d'alléger les contenus relatifs aux ensembles et à la mathématique moderne d'une manière générale.
Mmh. Bon, tout cela est un peu flou hein, pour l'instant parce que nous savons que malgré que le programme, le nouveau programme est là, et maintenant il faudrait vulgariser correctement ce programme. Alors, comment ça va se faire concrètement en tant qu'inspecteur principal provincial? Vous avez une idée pour le Kasaï oriental?
Oui, pour le Kasaï oriental, en date du 10 octobre, en collaboration avec le centre d'animation pédagogique de l'ISP Mbujimaï, nous avons organisé une journée de vulgarisation d'abord pour la géographie. Et ensuite, du 11 au 16 dernier, nous avons organisé des journées de, disons, une semaine de vulgarisation pour les autres programmes.
Mais ça ne suffit pas, il faut aller au-delà.
Oui. Oui, je crois que ça ne suffit pas, il faut aller à l'intérieur. D'ailleurs, il y a des problèmes au niveau de la distribution, comme l'a souligné l'un des intervenants.
Tout à fait.
Déjà, au niveau de la ville, on n'a pas couvert toutes les écoles en programme. Et encore moins au niveau de l'intérieur de la province, nous avons des difficultés parce que ces programmes n'ont pas été imprimés en quantité suffisante. Et ce sont des écoles qui se débrouillent auprès des particuliers, les vendeurs.
On aura à voir, on aura à voir en tout cas concrètement comment ça se passe sur terrain, c'est-à-dire à travers les différentes écoles de la RDC, comment on arrive à vulgariser ce nouveau programme. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci beaucoup Marcel Longi Mutashi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal provincial de l'EPSP Kasaï Oriental. Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci, madame.
Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont appelés au 081 070 2050 pour participer à cette émission. Retenez qu'à la mise en onde, il y avait Héritier Sidia Kala, à la réalisation JR Lungembo au micro Nicole Ngaka. Cette émission a été coordonnée en duo, bien sûr, par Marcel Ngombo et Nathalie Muteba. Le prochain rendez-vous, c'est déjà demain à la même heure. Tout à l'heure, à partir de 11h, 2 minutes à peu près, vous allez retrouver Karine Ngalimbaya pour Okapi présent. Mais d'abord, vous aurez bien sûr droit à votre flash info à partir de 11h, heure de Kinshasa, 12h, heure de l'Est, toujours avec Thérèse Bassoubi. Avec nous, c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, je l'ai dit, c'est demain, à toujours à partir de 9h, heure de Kinshasa. À demain.